L'organisation de la démocratie en Suisse a au moins un avantage sur la nôtre. Le recours régulier à des référendums d'initiative populaire permet de mettre au cœur du débat public des questions qui, sans cela, auraient bien du mal à être portées par la représentation politique. Ainsi, la question de la limitation des hauts salaires ou celle de l'interdiction des parachutes dorés. Pour info d'ailleurs, la première initiative a été rejetée, la deuxième adoptée. Ainsi, cette prochaine consultation, on ne sait pas encore précisément quand, consacrée à la mise en place d'un revenu minimum pour tous. Un revenu minimum pour tous. Que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit pauvre ou riche, que l'on travaille ou pas, pour tous donc. Alors, l'idée peut paraître saugrenue, mais elle ne l'est pas si l'on en juge par la longue liste de ses promoteurs qui nous fait remonter au XVIe siècle de Thomas More, en passant au XXe siècle par les États-Unis de l'économiste James Tobin, inventeur malgré lui de la taxe du même nom, et pour arriver à notre classe politique nationale, le socialiste Christophe Girard et l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin par exemple, y sont l'un et l'autre favorables. Alors le revenu minimum ou revenu de base, ce ne sont pas les appellations qui manquent, aurait pour vertu de lutter contre la précarité, de faire diminuer le chômage, de mettre fin à la stigmatisation des plus pauvres et peut-être surtout d'émanciper l'individu en ne l'obligeant plus à travailler. Une idée suffisamment incorrecte politiquement pour qu'elle vaille la peine d'être examinée de près. Toute existence mérite-t-elle salaire ? C'est notre sujet du jour. Pour discuter de cette question, trois invités. Christine Boutin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente d'honneur du Parti chrétien démocrate. Vous serez candidate aux prochaines élections européennes sur les listes Force Vie. Vous avez été ministre du Logement et de la Ville. Et vous défendez depuis une dizaine d'années cette idée d'un revenu de base. Tout comme notre deuxième invité qui lui se trouve en duplex des studios de Radio France à Lyon. Je dis tout comme, sauf que lui défend un revenu de base de gauche. Il insiste beaucoup dans un de ses ouvrages. Il s'agit de Baptiste Milondeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez l'économie à Sciences Po Lyon. Vous venez de publier aux éditions du Croquant Non au temps partiel subi, mais c'est surtout pour votre...
Au temps plein subi, pardonnez-moi.
Vous voyez, j'avais anticipé peut-être le contenu de votre ouvrage, mais c'est surtout pour votre livre publié l'an dernier chez Utopia que nous vous avons invité. Pour un revenu sans condition, garantir l'accès aux biens et services essentiels. Et puis notre troisième invité est lui aussi économiste, lui aussi de gauche, je pense qu'il ne me démentira pas, mais pas convaincu par l'idée d'un revenu de base. Il s'agit de Michel Husson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du conseil scientifique d'Attaque et de la fondation Copernic, économiste à l'IRES, l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. On vous doit, c'était au mois de juin, aux éditions Couleur Livre, salaire et compétitivité pour un vrai débat. Alors il y a beaucoup d'éléments à débattre autour de cette idée d'un revenu minimum de base, mais comme c'est une idée qui n'est pas extrêmement connue, c'est le moins qu'on puisse dire, je vais d'abord demander à deux de ses promoteurs, donc Christine Boutin et Baptiste Milondeau, de nous expliquer d'abord, si vous le voulez bien, en quelques mots, donc je vous demanderai de faire un petit effort de synthèse, ce qu'est votre projet à vous de revenu de base. Je commence avec vous, Christine Boutin. Ce revenu de base, d'abord il s'adresserait à qui ? À tous les Français ?
Oui, à tous les Français, et même la question se pose de savoir pour les étrangers qui sont sur le territoire. Si vous voulez, c'est un véritable projet de société, une révolution culturelle.
Donc alors, ça c'est d'abord la première réponse, c'est à qui ? À tous les Français, voire à l'ensemble de ceux qui sont sur le territoire. Combien vous proposez pour ce revenu de base ?
Alors sur la base d'un équilibre, c'est-à-dire sans dépenses supplémentaires, parce que souvent on nous dit ça coûte très cher, on n'y arriverait pas. Nous avons fait les calculs, c'est 400 euros de la naissance jusqu'à 18 ans et 800 euros ensuite. Jusqu'à la mort. Sans condition de ressources. C'est le fait d'exister, le fait de naître. Quand on naît, on a 400 euros jusqu'à 18 ans et ensuite... Alors pourquoi 400 et 800 ? C'était pour l'équilibre budgétaire. Mais le problème financier n'est pas la vraie préoccupation.
Et le principal objectif, il y en a plusieurs, mais si vous deviez définir le principal objectif de ce revenu de base pour vous ?
C'est la reconnaissance que toute existence d'un individu est producteur de richesse et d'assurer à tous de ne jamais tomber dans l'extrême précarité.
Alors voyons voir si le revenu sans condition que défend Baptiste Milondeau ressemble un peu, beaucoup ou pas du tout à celui que vous venez de nous détailler, Christine Boutin. Pour vous aussi, c'est un revenu qui devrait s'adresser à tout le monde ?
Alors à tout le monde, oui, la question se posait visiblement pour Christine Boutin de savoir si tous les résidents devraient y avoir droit. Pour moi, la question ne se pose pas, bien sûr, tous les résidents devraient y avoir droit.
Est-ce que vous avez une idée aussi du montant? Alors là, dans votre livre, vous ne tranchez pas vraiment, vous dites qu'il faut que ce soit suffisant, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on puisse avoir ce revenu et ne pas être obligé de travailler, mais il ne faut pas que ça soit excessif non plus pour ne pas aller vers une société de surconsommation.
C'est ça. Alors du coup, moi je suis aussi donc décroissant et objecteur de croissance, donc je pars du principe que la croissance n'a aucune raison d'être un objectif politique. Et puis je pars du principe aussi qu'on consomme trop, qu'on produit trop, donc du coup il n'y a pas de raison d'imaginer des montants particulièrement élevés en se disant qu'on ne peut pas vivre en dessous. De fait, effectivement, on peut vivre avec peu, et ce serait souhaitable déjà pour la planète et sans doute aussi pour la société. Alors après, sinon sur la définition que je retiens moi pour le revenu inconditionnel, donc déjà cette double inconditionnalité, donc un revenu versé sans condition de ressources, sans condition d'activité, sans condition d'inactivité. Un revenu versé sans contrepartie, donc sans qu'on soit obligé de rechercher un emploi, sans qu'on soit obligé de réaliser un travail d'intérêt général. Et puis surtout, donc, ce côté suffisant, revenu suffisant, qui à mon sens permet de faire la distinction entre les projets de droite et les projets de gauche. Suffisant, donc par suffisant j'entends deux choses, suffisant pour pouvoir accéder aux biens et services essentiels, et puis suffisant par conséquent pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Et c'est en cela surtout.
Est-ce que vous vous sentez justement alors en d'opposition partielle avec ce qu'a expliqué pour l'instant, parce que le débat n'a pas encore tout à fait commencé, Christine Boutin?
Alors au niveau des objectifs, j'imagine qu'on partage pas du tout les mêmes objectifs, qu'on partage pas du tout le même projet de société. Moi, mon objectif, c'est d'inverser le rapport de force sur le marché du travail déjà. C'est-à-dire que une fois qu'on a un revenu suffisant en poche, on n'est plus obligé d'accepter le premier emploi venu, d'accepter les conditions de travail qui vont être fixées par l'employeur. Donc on change complètement le rapport employeur-employé et on sort, je l'espère, du rapport de production capitaliste en se tournant davantage vers des sociétés de vie coopérative ou ce genre de choses.
Ensuite, cette inversion des rapports, Christine Boutin, est-ce que c'est un objectif que vous pourriez partager?
Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence entre les deux projets, enfin tel que je viens de le comprendre. Je crois qu'il y a des personnes qui soutiennent cette idée, qui vont beaucoup plus loin et qui disent il faut un montant suffisamment élevé pour que la personne soit en véritable liberté, je travaille ou je ne travaille pas. Moi, avec mes 400 et 800 euros, je ne pense pas qu'on puisse travailler, enfin qu'on puisse éliminer le fait d'avoir une ressource supplémentaire. On ne peut pas vivre avec 400 euros ni avec 800 euros.
Alors Michel Husson, je le disais en vous présentant, vous n'êtes pas, vous, a priori, favorable à ce revenu de base. On voit qu'il y a déjà des petites différences qui se dessinent entre Baptiste Milando et Christine Boutin. Autrement dit, d'un côté, un revenu qui permettrait de se passer d'un travail, puis Christine Boutin qui dit voilà, c'est un apport supplémentaire, mais en tout cas, ça ne se substitue pas au travail. Est-ce que vous êtes opposé à l'un des deux projets ou bien à l'ensemble de cette idée?
Je suis plus opposé à l'un qu'à l'autre, mais si le niveau est faible, il y a un côté qui va rejaillir, un effet pervers qui va rejaillir sur les salaires, un peu comme la prime pour l'emploi en ce moment. C'est-à-dire on verse de très bas salaires, ça suffit pas et on va compléter. Et d'une certaine manière, il y a un très vieux fond. Il y a eu des lois sur les pauvres, des débats entre les premiers grands économistes, qui étaient au fond la société s'affranchit de la responsabilité d'intégrer dans la société une partie de gens qu'on considère comme inemployables, et elle s'affranchit de cette incapacité en leur versant un petit revenu qui va leur permettre de survivre. Et de l'autre côté, dans la version de gauche, le postulat au fond, c'est la fin du travail. Le plein emploi, ça n'existe plus, et par conséquent, il va falloir le remplacer par la garantie d'un revenu, ce qui est d'ailleurs dans le préambule de la Constitution. Si vous voulez. Et par exemple, le mouvement de chômeurs auquel j'ai participé il y a longtemps avait un double slogan, c'était l'emploi c'est un droit, le revenu c'est un dû. Et d'une certaine manière, ça rippe sur le revenu c'est un dû, parce que l'emploi paraît complètement hors de portée. Et donc je pense qu'il y a une espèce d'abandon de l'idée qu'on peut construire une société où tout le monde s'insère par l'emploi. Parce que si vous êtes éjecté du marché du travail, même si on vous compense, vous êtes quand même exclu de l'insertion sociale. Et on voit bien ça chez les chômeurs, où il y a une double peine, le fait de ne plus avoir de revenus décents et le fait d'être considéré comme un surnuméraire de la société.
Est-ce que c'est la raison, Christine Boutin, pour laquelle votre projet de revenu minimum est assez faible au regard de celui qui est proposé par Baptiste Milondo, pour justement ne pas en faire un revenu qui serait contre le travail, qui s'opposerait à l'idée
alors
de travail?
C'est justement, vous voyez, là, c'est là où il y a vraiment la grosse différence. C'est que le regard n'est pas du tout le même. Vous, Monsieur Husson, vous regardez le problème du travail, et Monsieur Milondo aussi, la précarité, etc., qui naturellement est intéressante. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. Moi, les principes philosophiques qui justifient le revenu de base, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on existe, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on en est. Le principe du revenu de base tel que je le porte moi philosophiquement, c'est nous faisons partie d'une histoire, nous héritons d'un capital immatériel qui vient de nos ancêtres et que nous avons l'obligation d'augmenter pour le transmettre aux générations futures. Et c'est une espèce de reconnaissance financière que cette existence dans la chaîne humaine. C'est un nouveau droit humain, c'est pas du tout une affaire sociale.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une façon de rémunérer l'utilité que nous avons tous à partir du moment où nous existons ?
Absolument. C'est exactement ça. C'est exactement cette idée-là. Donc c'est pas du tout du reste ça substitue à un certain nombre d'allocations, mais aucune des allocations sociales bien sûr dans mon système. C'est une espèce de reconnaissance. Alors certains même dans mon camp peuvent être choqués de penser qu'on puisse dire que la dignité humaine puisse être avoir son équivalent en euros. C'est un petit peu ça. Je vous ai dit 400, 800, ça n'a pas d'importance. Il suffit de choisir. Le problème du financement, encore une fois, qui bloque souvent la réflexion au fond, n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir philosophiquement qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour moi, c'est la reconnaissance de la dignité de la personne, de sa nécessité et d'appartenance à la collectivité. Nous avons tous les mêmes 400 euros. Nous faisons partie de la même collectivité.
Baptiste Milondo, alors vous n'êtes pas d'accord hein, sur le montant que pourrait avoir ce revenu de base, mais sur l'approche philosophique que vient d'expliquer Christine Boutin, si je vous ai bien lu, vous dites à peu près la même chose. Il faut reconnaître à l'existence une forme d'utilité, en tout cas toute existence est utile à la société, et cette utilité ne se mesure pas uniquement à travers l'activité que l'on absolument peut avoir dans le travail.
Dans l'emploi, du coup.
Dans l'emploi.
Alors, deux choses. Donc, effectivement, alors moi, je fonde mon revenu inconditionnel sur l'idée que tout le monde participe à la création de richesse, quelles que soient ses activités. Par contre, il ne s'agit pas de rémunérer ou de rétribuer cette création de richesse, mais plutôt de la rendre possible, donner suffisamment à tous pour qu'on puisse continuer à créer la richesse sociale notamment. Donc, il ne s'agit pas du tout de se dire il y a telle richesse, telle valeur qui est créée, du coup, on va donner une compensation. C'est juste donner les moyens de poursuivre. Ensuite, par rapport à ce qu'a dit Michel Husson, personnellement, mon fondement, moi, c'est pas du tout l'idée que le plein emploi soit inaccessible. La question que je pose, moi, c'est est-ce que c'est souhaitable comme objectif? Donc le plein emploi conçu comme la volonté de mettre tout le monde au boulot, je pense pas que ce soit la bonne solution. Notamment quand on se dit l'emploi doit être est aujourd'hui la seule source de reconnaissance sociale, d'estime de soi, etc. Le revenu inconditionnel.
C'est vrai quand même. Aujourd'hui, c'est quand même la seule source de reconnaissance sociale.
Et c'est ça le drame. L'idée qu'il y a aussi derrière le revenu inconditionnel, c'est remettre en cause cette valeur travail. Et par valeur travail, j'entends la survalorisation de l'emploi. Donc l'emploi comme seule source d'estime de soi, de reconnaissance sociale, d'utilité sociale et évidemment aussi de revenus. Tout ça, il faut le remettre en cause. Se dire que, évidemment, l'utilité sociale ne se limite pas à l'emploi. Donc pourquoi forcément vouloir mettre tout le monde dans l'emploi pour qu'il puisse être intégré? Non, il faut reconnaître aussi l'utilité de toutes les autres activités. C'est ça, en fait, le fondement. Donc c'est pas à dire le plein emploi, on n'y arrivera pas, c'est le plein emploi, il faut abandonner cet objectif. Ou alors se donner juste comme objectif l'idée que ceux qui ont envie d'avoir un emploi doivent avoir la possibilité effective de le faire. Et à mon sens, le revenu inconditionnel le fait mieux que les projets actuels de création d'emplois un peu partout.
Alors posons justement la question à Michel Husson, est-ce qu'on ne survalorise pas un peu trop aujourd'hui la valeur travail et le fait d'avoir un emploi ?
Mais la société est construite comme ça, il faut aller voir, par exemple, prenons les femmes. Si vous mettez un revenu inconditionnel, vous allez, il y a deux féministes qui ont écrit là-dessus, il y a peu de réponses là-dessus. Vous favorisez le salaire maternel, parce qu'après tout, on peut très bien construire un argument sur lequel l'activité de soins aux enfants, enfin de les mettre au monde, est une contribution, s'il en est, à la société.
Donc ça permettrait de justifier le maintien des femmes dans le cercle familial et voilà.
Mais justement, les femmes, ce qu'on voit, c'est une aspiration à l'emploi. Je veux dire, c'est pas qu'on les force pas à aller à l'emploi. Les millions, les 5 millions de personnes qui sont sans emploi, Mais je veux dire, il n'y a pas que le revenu, encore une fois. Quand on voit l'état de désespérance, c'est l'état d'être éjecté. Et je veux dire, une société qui s'organiserait en disant chacun participe à sa manière et on trouve une activité pour tout le monde, ça me paraît beaucoup plus positif comme mode d'insertion.
Christine Boutin, c'est un vrai risque quand même, hein, sur lequel met le doigt Michel Husson, c'est-à-dire de se dire un revenu minimum, ça pourrait. Alors au moment où on parle beaucoup d'égalité professionnelle, ça pourrait inciter peut-être davantage les femmes à rester chez elles.
Vous restez toujours dans cette idée du travail, mais ça n'a rien à voir. Le revenu de base n'empêche pas l'allocation chômage si on n'a pas de travail. C'est pas du tout ça. Quand vous parlez du problème des salaires maternels, parce qu'on prend cet exemple des femmes parce qu'elles élèveraient leurs enfants et que c'est pas à la mode en ce moment. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas cette reconnaissance? Mais on peut prendre tout un tas d'autres activités bénévoles qui ne sont pas aujourd'hui reconnues par la société et qui pourtant apportent du capital social très important à l'ensemble de la société. Et c'est justement par ce revenu de base qu'il y aurait la reconnaissance de toutes ces activités bénévoles qui aujourd'hui ne sont pas reconnues. Alors il y a celles qui décident d'élever leurs enfants, mais il y a ceux qui s'occupent d'associations et qui n'ont aucune reconnaissance. Et dans ce revenu de base, quel que soit son montant, il y aurait la reconnaissance de cette utilité sociale qui aujourd'hui n'est pas reconnue parce qu'il n'y a qu'effectivement que le salaire. On a l'impression en France qu'il n'y a que le salaire qui donne la dignité. Une personne qui n'a pas de salaire en France n'est pas digne. Eh bien si, une femme, un homme est digne parce qu'il existe, qu'il ait un salaire ou qu'il n'en ait pas, qu'il ait un emploi ou qu'il n'en ait pas. C'est ça la philosophie du revenu de base. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une révolution culturelle. Il faut laisser tomber l'histoire du travail. Ça n'a rien à voir. C'est lié à la personne, sans condition. C'est inconditionnel et c'est universel.
Baptiste Milando, cette révolution culturelle-là, encore faut-il que la société soit prête à l'accepter. Est-ce que le principal obstacle à ce revenu minimum, ça n'est pas celui-là? Comment est-ce qu'on fait pour accepter, par exemple, que des gens qui touchent ce revenu, qui leur permet alors plus ou moins de vivre en fonction du niveau qui leur est attribué, qui permet à des personnes de ne plus travailler et donc de dépendre de ceux qui travaillent, puisque c'est aussi un petit peu ça quand même, ce que vous proposez.
Alors, de dépendre de ceux qui travaillent, en fait,
le revenu inconditionnel... Il faut bien qu'il y ait une création de richesse pour que cette richesse soit redistribuée à un moment donné.
Oui, alors du coup, là, l'idée, c'est avec le revenu inconditionnel, on vient reconnaître déjà une création de richesse, donc de la part de tous. Et alors, parce que tout le monde contribue à la création de richesse, tout le monde doit avoir les moyens de continuer à produire cette richesse. Donc après, effectivement, il faut partager les revenus. Il faut partager les revenus, mais en même temps, avec le revenu inconditionnel, il y a aussi une critique de la répartition actuelle des revenus. Le revenu inconditionnel vise, enfin, dans la version que je défends, vise aussi à réduire drastiquement les inégalités. Alors, d'ailleurs, je couple, moi, toujours le revenu inconditionnel à un revenu maximum acceptable. Se dire que le revenu inconditionnel doit garantir à tous un niveau de vie suffisant. Alors, vous parlez souvent de revenu minimum. Personnellement, je n'adhère pas du tout à cette formule. Hein. Ou alors, si il y a un revenu minimum, ça doit être minimum maximisé. Moi, je préfère parler de revenu suffisant, hein, tout simplement. Mais donc, du coup, effectivement, ça suppose un autre partage des richesses. Et ça me semble plutôt juste, encore une fois. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faudrait refuser des moyens de subsistance à des individus qui sont membres de la société et de la communauté et qui participent aussi à son enrichissement.
Mais attendez, expliquez-moi quelque chose, parce que pour ce qui est de la question de la réduction des inégalités, donc si vous attribuez un revenu suffisant, identique à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, les inégalités, elles sont maintenues. Ça ne change absolument en rien l'écart qu'il peut y avoir entre les plus bas revenus et les plus hauts revenus.
Alors, si, de fait, parce que par le financement, enfin, vous allez, si vous voulez, faire en sorte que tout le monde ait suffisamment, et il faut s'arranger pour que personne n'ait trop. En gros, le revenu inconditionnel, c'est aussi en cela que c'est une question qui me semble intéressante. Elle pose plusieurs questions. Elle passe un peu notre société au révélateur du revenu inconditionnel, par exemple, sur la question du suffisant. Donc, sur la question du montant, on se dit, qu'est-ce que c'est un montant suffisant? Donc ça nous amène à nous demander quels sont les besoins qu'on doit impérativement couvrir, etc. Et puis ça pose aussi la question du suffisant dans la tranche élevée, quoi. Mettre en place un plancher de revenus et un plafond de revenus. À partir de quand est-ce qu'on peut dire, maintenant ça suffit. On doit aussi limiter les hauts revenus. Donc déjà, par le financement, vous allez prélever sur les hauts revenus pour faire en sorte que tout le monde est suffisamment en bas.
Michel Husson.
Oui, alors moi, je vais être un peu ennuyeux, mais il y a quand même le problème du financement. C'est-à-dire, si ce revenu s'ajoute, comme vous le dites, à toutes les allocations qui existent, les prestations qui existent déjà, si on ne mord pas sur ces éléments de redistribution, La question, y compris, vous avez besoin d'expliquer ça pour convaincre. Sinon, ça paraît une espèce de conte de fées. D'où ça vient? C'est-à-dire, sur quoi on bouge? Si c'est une énorme réforme fiscale, je veux dire, ça couvre pas les montants qu'on peut estimer. Par exemple, à 800 euros par mois, ça fait 25% du PIB.
Sauf si ça se substitue à d'autres aides sociales.
D'accord. C'est ce qui se passe.
C'est ce que vous disiez le contraire tout à l'heure.
Par exemple, les allocations familiales sont supprimées. C'est moi qui le dis, en soutenant les revenus de base. Vous voyez, ça vous fait même sourire.
C'est surprenant de votre part.
Mais je vous le dis, moi je vous conseille de lire la thèse de Marc Basquiat, et vous verrez qu'il a fait une étude très, très, très reconnue. Il a une thèse qu'il a défendue et qui se tient économiquement, et qui, sur la base du budget de l'année dernière, ou d'il y a deux ans, parce que je ne sais plus quand sa thèse a été faite, eh bien, montre l'équilibre et qu'il n'y a pas un euro supplémentaire déboursé par l'État par rapport à cette nouvelle répartition.
Ce que vous proposez finalement, c'est moins une révolution culturelle qu'une simplification de l'attribution de ces aides.
C'est une révolution culturelle, mais c'est aussi une simplification. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple. Moi, je ne veux pas rentrer dans tout le détail et je redis, invitez M. de Basquiat, il vous dira ça très bien, il vous démontrera avec beaucoup de talent, mais c'est tout à fait possible. Le problème du financement n'est pas là. Ce n'est pas ça ce qui est en jeu. L'avantage du revenu de base, s'il est donné, c'est qu'il va libérer des énergies. Il va libérer de la créativité. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile et donc chacun protège son petit pré carré en se disant le peu que j'ai, je ne veux pas le mettre en risque parce que je risque de me retrouver sur la paille. Si nous étions assurés chacun d'avoir ce minimum, je suis persuadée qu'il y a tout un tas d'énergies créatrices innovantes qui seraient mises dans le débat public et sur le marché et qui permettraient le développement de notre croissance. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui parce que nous sommes frileux et que nous avons peur. Moi, je me suis beaucoup occupée des prisons aussi. Je trouve ça... s'il y avait ce revenu, il permettrait aussi à la personne qui est en prison, qui n'a aucune reconnaissance, d'être aussi faire partie de la société. Il purge sa peine, mais il fait partie de la société. Ça a des effets vraiment très importants au niveau de la créativité et de la reconnaissance de chacun d'entre nous.
Alors, révolution et simplification. Sur la question de la simplification, Michel Husson, est-ce que ça suffit à être un vecteur de réduction des inégalités? Baptiste Minondo, je reviens à vous juste après, c'est promis.
Moi, je ne crois pas parce qu'il y a un autre aspect, c'est-à-dire on ne peut pas que reventiler et donc on va remplacer des prestations en nature par un revenu monétaire. Et là encore, je serais plutôt favorable à l'extension du domaine de la gratuité, si on pourrait dire, c'est-à-dire la satisfaction des droits sous forme, non pas de revenus, mais de réalité de ces droits. On discutait du logement, par exemple le logement, si vous voulez, vous avez deux modèles, soit vous essayez que les revenus courent après les loyers, soit vous contrôlez les loyers. Et c'est deux politiques de types différents.
Oui, parce que ce revenu-là, est-ce que ça ne peut pas aussi avoir un effet sur les prix? C'est-à-dire que les propriétaires, mettons, sachant que tout le monde touche ce revenu-là, augmentent leurs prix d'autant et finalement l'effet sera totalement neutralisé.
Mais aussi, ils toucheront les propriétaires. Donc ça s'annule. Les propriétaires le touchent aussi. Donc ça n'a pas du tout cet effet-là.
Il ne peut pas y avoir des effets d'aubaine, Michel Husson?
C'est un effet typique chaque fois. Par exemple, Baptiste disait ça va modifier le rapport de force, etc. Mais ils vont faire comme les propriétaires disent aux locataires, vous touchez une allocation logement, ou comme les grands groupes disent à leurs sous-traitants, vous touchez un crédit impôt, donc vous allez baisser vos demandes.
Vous n'avez pas fait la révolution culturelle.
Je vais apprendre de vous certainement.
Conseillère en révolution, Christine Lepin pour attaque.
La prime pour l'emploi, c'est exactement ça. Vous légitimez des bas salaires sous prétexte que c'est complété par la prime pour l'emploi. Et je vois pas en quoi spontanément. Il y a l'ordre des choses, la transition. C'est-à-dire, il y a un côté grand soir on passe brusquement d'un passage à l'autre parce que d'une certaine manière, la transition n'est pas possible. Il faut que ça ça soit brutal. Sinon, c'est une généralisation de la prime pour l'emploi. Par exemple, je poserais volontiers la question à Baptiste. Est-ce que la prime pour l'emploi, c'est une ébauche de son revenu inconditionnel?
Et bien, posons la question tout de suite à Baptiste Milondo. Et j'en rajoute une. Est-ce que vous plaidez pour une rupture brutale, en tout cas radicale, ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous verriez mis en place de manière assez progressive?
Alors, dans l'ordre. D'abord, sur la question du financement, parce que visiblement, Michel Husson a l'air effrayé par l'ampleur de la redistribution que nécessiterait un revenu inconditionnel. Il parlait de 25% du PIB. Alors, il y a des calculs qui ont été faits. On s'aperçoit que pour financer un revenu inconditionnel de l'ordre de 1000 euros par mois par personne, il faudrait prélever en gros 50% des revenus aujourd'hui. 50% des revenus, donc qui seraient prélevés en moyenne, hein, et qui seraient redistribués, enfin répartis entre tous à part égale. Michel Husson a l'air d'être effrayé par cette perspective. Moi, je pense que c'est l'objectif. Enfin, c'est vraiment une nouvelle répartition des richesses et c'est plutôt tant mieux. Enfin, si on lutte contre les inégalités, bah, il faut pas hésiter à prélever et puis à répartir différemment, donc de manière plus juste. Après, sur la question des loyers, alors je le dis dans tous mes livres, hein, il s'agit avec le revenu inconditionnel, parallèlement au revenu inconditionnel, et même si on met pas en place un revenu inconditionnel, de plafonner les loyers. Bah, effectivement, si on met en place un revenu inconditionnel sans plafonnement des loyers, il y a de fortes chances pour que les loyers augmentent. Donc de toute façon, effectivement, il faut mettre en place ce type de mesures.
Bon, alors la prime pour l'emploi.
Non, mais il y avait une autre question aussi.
Il y en avait que deux, hein, vous répondez à quatre.
Une affirmation qui me semblait trompeuse de Michel Husson, à savoir que le revenu inconditionnel viendrait remplacer des prestations en nature. Il n'en est pas du tout question. Et d'ailleurs, là aussi, dans mes livres, je parle de mettre en place un revenu inconditionnel et d'étendre parallèlement le champ de la gratuité. Donc étendre les services publics gratuits autant que possible et puis aussi sortir le plus possible de la marchandisation de la société.
Et sur la question que vous posez directement, Michel Husson, sur la prime pour l'emploi, est-ce que ça n'est pas déjà une forme de revenu minimum, vous n'aimez pas suffisamment, enfin en tout cas voilà, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette logique-là?
Bien sûr que non, vu qu'elle est complètement liée à l'emploi, la prime pour l'emploi. Elle est complètement liée à l'emploi. Moi je suis contre la valeur travail, donc l'idée de lier une prestation comme ça à l'emploi, mais ça me va pas du tout. Donc je conçois pas du tout la prime pour l'emploi comme une base de revenu inconditionnel.
Christine Boutard.
Moi je voudrais réagir au grand soir de M. Husson, c'est pas du tout une question de grand soir. Du reste la meilleure preuve c'est que ce principe, cette idée a déjà été mise en place dans un certain nombre de pays. Je pourrais citer...
Ah non, mais à 400 euros par mois, ça ne vous concerne pas.
Le concept a déjà été mis en place dans un certain nombre de pays. Par exemple, au Brésil, où en fait, c'était Lula, à l'époque, qui a installé la Bolsa Familia.
C'est sous condition de ressources, hein?
Non, c'était sous condition que les enfants aillent à l'école. Hein, parce que naturellement, ça dépend des pays. Mais lui, dans la mesure où les enfants allaient à l'école, on donnait cette bourse familiale. C'est le début de ce revenu.
Et ça tombe très bien justement que vous alliez sur les comparaisons internationales, Christine Boutin. Merci pour cette transition. Parce que je voulais en venir justement à certaines expérimentations qui ont pu être menées. Alors à une échelle assez large au Brésil, comme vous le disiez, des échelles plus locales, par exemple en Inde, par exemple au Canada, ou encore en Namibie, une expérience dans le village d'Odjivero. Ça s'est passé entre 2008 et 2012, plutôt grand village, 1200 personnes, à 2 heures de route de la capitale namibienne. Tous les habitants âgés de moins de 65 ans ont bénéficié donc pendant 4 ans d'un revenu mensuel de base de $100 namibiens, ce qui représente environ 10 euros. Il se trouve que la rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'extrême pauvreté, Magdalena Sepulveda, a eu l'occasion de visiter ce village. Et voici le témoignage qu'elle en a rapporté. Elle est interrogée par Mélanie Chalandon.
Il s'agit d'un programme pilote qui a été mis en application pour une communauté dans son ensemble. Son attribution n'était liée à aucun test, ni aucune obligation à remplir, et n'obligeait pas non plus les bénéficiaires à travailler. C'est une aide qui prenait la forme d'un versement d'argent en liquide à chaque individu sur le seul critère de son appartenance à la communauté. À la suite de cette expérience, on a pu observer que les enfants fréquentaient plus souvent l'école. On a aussi constaté une augmentation des visites à la clinique et aux services de santé de la communauté. Il est important de dire que le revenu universel est sans condition pour toute la communauté, s'inscrit dans une logique de promotion des droits. Cela évite de stigmatiser les pauvres et les plus exclus de la société, puisque tous en bénéficient. Et dans le même temps, c'est un système transparent qui permet d'éviter la corruption.
Alors Michel Husson, je sais que vous êtes intéressé à ces expérimentations qui ont pu être menées, peut-être pas forcément celle-ci en particulier, mais on voit que ça peut avoir un certain nombre d'effets positifs. Est-ce que ça ne plaide pas, au moins, si ce n'est pour la généralisation de ce principe, pour son expérimentation, y compris dans des pays sans doute plus favorisés, comme la France ?
C'est vrai que il y a une autre expérience en Inde qui est, je vous disais, c'est tout à fait passionnante. C'est des expérimentations. Je pense pas que ça soit transposable dans les sociétés qui sont structurées différemment, et notamment certains par le rapport salarial, quoi. Je pense qu'il y a une question de stratégie, c'est-à-dire la polémique porte sur le fait d'abandonner en réalité la lutte contre le chômage, la lutte pour l'emploi, et de dresser, disons, un paradis fondé sur la répartition où on serait complètement déconnecté du travail. Mais même ça, alors je vais être aussi très, très conservateur, c'est comment se fait la répartition entre les gens qui ne vivront du revenu suffisant et de ceux qui feront les travaux qui sont nécessaires, quoi. Je veux dire, conducteurs d'autobus ou je sais pas quoi, les gens qui construisent les maisons où on habite, etc.
Et des travaux qui parfois peuvent être pénibles. Alors justement, sur cette question, je sais que Baptiste Milando a tout un chapitre qui est consacré à ça. C'est-à-dire, comment se fait la répartition? Et vous prenez par exemple le cas du ramassage des ordures. On peut se dire que s'il y a ce revenu suffisant, ceux qui ramassent les ordures, non pas que ce soit un métier indigne, mais il y a peut-être quand même des possibilités pour qu'il y ait moins de candidats pour ce genre de travail. Comment est-ce qu'on gère le manque de main-d'œuvre avec votre revenu suffisant?
Alors typiquement, voilà, c'est le type de question que soulève le revenu inconditionnel, et il serait temps de les soulever en fait. Là, Michel Husson dit comment est-ce qu'on fait quand on a mis en place un revenu inconditionnel pour répartir ses tâches, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qui est-ce qui s'y colle aujourd'hui? C'est toujours les mêmes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Alors, qui a un revenu inconditionnel ou pas, il faudrait poser cette question. Il faudrait trouver un autre mode de répartition de ces tâches pénibles.
C'est quoi votre autre mode de répartition, justement?
Alors déjà, si on considère qu'il y a des tâches particulièrement pénibles, il faut essayer de les supprimer autant que possible, de les détruire, de s'en passer. Donc, pour la question de la collecte des déchets, ou pour la question, je prends aussi dans mon livre, la question des balayeurs publics, il faudrait peut-être commencer par être un peu plus propre, quoi. Il faudrait peut-être commencer par arrêter de jeter des papiers par terre. Il faudrait peut-être commencer aussi par mieux trier ses déchets, essayer de produire moins de déchets. Aujourd'hui, on a tendance à se féliciter parce qu'on produit des déchets, parce que comme ça crée des emplois. Alors, je ne sais pas si c'est le type d'emploi que veut créer Michel Husson dans sa perspective de plein emploi, mais moi, j'ai envie de dire, autant s'en passer autant que possible.
Alors, vous écrivez également, Baptiste Milando, alors c'est une proposition qui m'a un petit peu fait sursauter, je dois dire, à sa lecture. Vous dites que vous ne rejetez pas le principe en soi d'une inégalité des revenus, même s'il faut que cette inégalité soit la moins inégale possible. Vous écrivez également ceci, mais on ne doit pas pouvoir gagner sur tous les tableaux. Ça signifie par exemple que celui dont la grande valeur est reconnue par la société ne doit pas bénéficier en plus d'un revenu élevé, et celui dont l'activité est peu épanouissante, on vient d'en parler, voire ingrate, doit pouvoir bénéficier de compensations financières. Alors là, je voudrais poser une question à Christine Boutin. Vous qui avez une activité qui est reconnue par la société, vice-présidente d'un parti, vous avez été ministre, est-ce que vous accepteriez, dans la logique de Baptiste Milando, de gagner moins parce que vous êtes reconnu socialement?
Mais bien sûr, je l'ai même proposé. Quand je me suis présenté à la présidentielle, je l'ai proposé. Mais ce qui m'a semblé intéressant dans ce que disait Monsieur Milando, c'est justement l'effet psychologique que par rapport à ces tâches ingrates, la question qui est posée, c'est pas d'augmenter ces tâches ingrates, mais au contraire de prendre à la source les raisons pour lesquelles il y a un développement de déchets. On prend cet exemple-là, mais ça pourrait être un autre. C'est-à-dire que la réflexion sur le revenu de base, le revenu inconditionnel, nous oblige à poser les questions à la racine. Il ne s'agit pas d'augmenter ce genre de travaux ingrats, mais de voir comment on peut diminuer ces travaux ingrats. C'est un des effets psychologiques dont je parlais de créativité tout à l'heure. Voilà, c'est l'illustration parfaite des conséquences de ce concept. Je suis désolée de revenir sur le mot, mais c'est un retournement de notre façon de regarder la société, cette affaire. C'est extraordinaire. Moi, je suis convaincue, je le disais tout à l'heure, je suis convaincue que ça mettra en place un jour. Est-ce que c'est demain? Je ne crois pas, parce que les esprits ne sont pas faits encore, parce que nous sommes formatés à un certain système qui ne marche plus, du reste.
C'est ce formatage, à votre avis, qui explique que ce débat-là soit aussi peu présent absolument dans le débat public, parce qu'on voit bien que c'est un débat absolument passionnant, d'un point de vue au moins intellectuel, en tout cas.
Absolument.
Ça fait peur?
Bien sûr, ça fait peur, parce que ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause, mais on voit bien qu'on est dans la fin d'un système, et qu'il va bien falloir inventer un nouveau système. Alors, est-ce que ce sera le revenu de base? Moi, je l'appelle de mes voeux, même si on ne sera pas d'accord. Dans les revenus de base, on voit bien qu'il y a des différences entre M. Milandon et moi-même. Mais déjà, je pense que nous avons le même regard sur le concept. Mais il y a des tas de gens qui ne veulent même pas regarder ce regard. Il ne s'agit pas d'une affaire sociale. Baptiste... Il s'agit d'une question de dignité de la personne et de sa reconnaissance.
Baptiste Milandon, vous appelez Milandon
pour... Excusez-moi, monsieur Milandon.
Baptiste Milandon, dernière réaction.
Je voulais finir sur cette histoire d'emploi pénible. Vous m'avez demandé aussi comment est-ce qu'on fait pour partager. Il faudrait aussi sortir de la division actuelle des tâches. C'est-à-dire, effectivement, et aujourd'hui, il y en a qui cumulent les avantages, qui ont des boulots particulièrement épanouissants, qui sont très valorisés par la société et qui, en plus, gagnent énormément d'argent. Et en face, de l'autre côté, en bas de la pyramide, vous avez des gens qui ont des boulots pénibles, qui sont méprisés et, en plus, qui sont mal payés. Est-ce que c'est juste? Je pense qu'il faudrait déjà, avant même d'envisager une révalorisation sociale ou économique, s'arranger pour partager les tâches, que personne ne fasse que des tâches pénibles et d'autres que des tâches gratifiantes.
Est-ce que ce n'est pas un des principaux intérêts finalement de cette idée, Michel Husson, de revenu de base, revenu minimum, revenu suffisant, que de nous inciter aussi à réfléchir au système dans lequel nous vivons aujourd'hui et à peut-être ses évolutions futures?
Tout à fait, mais bien sûr, mais c'est pour ça que cette discussion est intéressante. Mais le problème, c'est d'avoir prise sur le quotidien, de mettre en avant des idées. Et par exemple, moi, l'idée qu'il faut revenir, continuer les 35 heures, passer aux 32 heures, voire aux 30 heures, etc., me paraît plus opérationnelle que ce projet. Parce que, là encore, la question, c'est, il y a une transition possible vers les 30 heures. Et il me semble qu'il n'y a pas de transition possible vers le revenu totalement inconditionnel.
Sauf à se dire que l'objectif final, c'est le revenu inconditionnel et que la transition, elle passe par une réduction du temps de travail, non? Ça ne peut pas fonctionner comme ça?
La société du temps libre, de pleine activité, effectivement, ça me... Mais encore une fois, le problème, c'est la dualité potentiel de ce type de système, si on imagine cette société, c'est-à-dire qui décide qui va avoir un emploi bien rémunéré et puis rester cette répartition-là, et c'est un problème. Bon, peut-être que c'est par manque d'imagination, mais c'est un véritable problème. Comment on s'insère dans la société?
Une courte conclusion, s'il vous plaît, Baptiste Milandon, voyez-moi aussi,
oui,
j'ai du mal.
Pardonnez-moi.
Une perspective de transition, alors. Là, je vous avais cité mon dernier livre, c'était « Non ou temps plein subi ». On préconise avec mes co-auteurs la mise en place d'un droit inconditionnel d'accès au temps partiel. Et à partir du moment où on commence à reconnaître ce droit, ça veut dire aussi qu'on se dit que tout ne se joue pas dans l'emploi, que toute la création de richesse ne se passe pas forcément dans l'emploi. On commence à reconnaître un peu la valeur du temps libre, l'utilité du temps libre. À partir du moment où on a accepté ça, on peut quand même se dire que finalement, le revenu peut être déconnecté de l'emploi. Donc ça peut être une première étape qui conduit finalement au revenu inconditionnel.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. J'étais ravi de la mener ce soir avec vous, Christine Boutin. Merci. Baptiste Milandon et Michel Husson.